Shalom à tous. Alors, si je ne me trompe pas, je vais juste vérifier. On m'a demandé de dédier le cours. Petite seconde. Hop là. Ça, je vais juste dire. Où est-ce que c'est ? Voilà. Donc, le cours est dédié à l'Eilou Nishmat. Chai Baruch Ben Avraham. Voilà, Chai Baruch Ben Avraham, il est fait meod, ça c'est dédié, Metsuyan. On peut revenir. Donc, à notre étude, Yofi. Donc, le Yilou Nishmat Chai Baruch Ben Avraham, et c'est parti. Donc, effectivement, nous entrons dans la dernière paracha, la dernière paracha du livre de Devarim. On a commencé déjà la semaine dernière à rentrer dedans, Parashat Vayechi. Et lorsqu'on rentre dans cette paracha, eh bien, la première chose qui nous frappe, c'est donc la mort d'Israël pour laisser la place à Yaakov. Comme on a dit la semaine dernière, Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim. Et donc, puisque Vayechi Yaakov, le premier verset de la paracha, et Jacob vécu en Égypte, eh bien, ça nous amène directement à Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Si c'est Jacob, la partie exilique du peuple juif qui domine, eh bien, Israël, Karov Lamout. Alors, il n'est pas mort pour de vrai, mais il tombe dans ce qu'on a appelé un espèce de coma national énorme. Et on se rendra compte que finalement, la première et seule véritable demande de Yaakov à son fils Yosef, c'est « ne m'enterre pas en Égypte ». Lamalo. Mara. Il dit surtout, al tigbereni be Mitzrayim. Alors certes, il va nous dire veshachafti mavotai, unsaatani mi Mitzrayim vekivratani bekvuratam vayomar anochi ase kidvarecha. Enterre-moi avec mes pères. Alors il y a deux dimensions. Il y a je veux pas être enterré en Égypte et je veux être enterré à Hebron à Marat à Marpella. Parce que le fait qu'ils disent ne m'enterre pas en Égypte, peut-être qu'il peut l'enterrer à New York. Non, non seulement on ne m'enterre pas en Égypte, mais en plus, je veux être enterré avec Yitzhak et Abraham. Et donc, il faut analyser ces deux réalités. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être enterré en Égypte? Eh bien, la première raison, on va le voir dans Rashi. Rashi, en fait, va nous donner trois explications de pourquoi Yaakov ne veut pas être enterré en Égypte. Et les trois, évidemment, sont intimement liés. D'abord, il nous dit parce que, alors regardez, je lis Rashi. Rashi, donc, dans ce verset, nous dit, Sofa liot afara kinim, ou marrashim btachat goufi. Ça, c'est la première raison. C'est que, il dit que viendra un temps où la terre d'Égypte sera des poux, et ça risque de gratter dans la momie. Donc, je veux pas, être là-bas. Un petit peu bizarre, cette histoire, même s'il est évident qu'on comprend que cela fait référence à Makat Kinim, à la plaie des poux, des fameuses dix plaies. Et on va juste falloir essayer de comprendre quel est le rapport. En quoi Yaakov, il a peur de cette plaie-là d'Afka. Ensuite, il dit une autre explication en Rashi, qui dit, « She'en metechutza la'aretz chayim ella betzar gilgul mechilot » C'est-à-dire que les morts de chutza la'aretz ne sont pas en paix, puisqu'ils ne vivent que Betsar Gilgulé Mechilot, c'est-à-dire qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est de pouvoir, eh bien, finalement, ne plus être dans cet endroit-là. Et donc, il veut être en plénitude. Et la troisième chose, c'est Vecheloya Asuni Avodat Zara. Que les Égyptiens ne fassent pas de moi une idolâtrie. Et là, il va falloir essayer de comprendre de quoi il s'agit. Quoi ? Il y a un risque que les Égyptiens fassent de lui une idolâtrie ? Quoi ? Vous êtes en train de me dire qu'il y a peut-être un risque que des goyims prennent un juif mort et en fassent une divinité ? C'est pas possible. C'est pas possible un truc comme ça. Ou alors c'est peut-être déjà arrivé dans l'histoire. Eh ouais, aujourd'hui il y a tous les jours 2 milliards d'êtres humains qui se prosternent devant un juif mort. Ben oui. Donc évidemment, il semblerait qu'il y a cette tendance qui est présente chez Umot HaOlam. Mais il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, c'est à cause de ce qu'il dit par rapport au Kinim. Vous savez, quand Yaakov, eh bien, on arrive à la plaie des Kinim, les mages égyptiens qui ont réussi à faire la plaie du sang et la plaie des grenouilles n'arrivent pas à faire la plaie de Kinim. Et ils disent eux-mêmes, Etzba Elohim hi. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire qu'on dévoile par la plaie de Kinim le divin par excellence. Et donc, ils disent aux Égyptiens, nous, on n'arrive pas à faire ça. Yaakov, en Égypte, c'est celui qui, je vous le rappelle, dans la parasha de la semaine, enfin, dans la parasha de Vaïgash, Yaakov est celui qui a béni Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon, se prenant pour une divinité, Yaakov le bénissant, il devient l'autorité suprême en termes de divin. Et donc, il y a tout à penser qu'effectivement, lorsque le divin va se dévoiler par la plaie des Kinim, eh bien, tout le monde va se dire, oh, Yaakov, c'est lui. Donc, il faut se prosterner devant Yaakov. Et donc, pour toutes ces raisons, Yaakov décide de demander à Yosef, surtout ne m'enterre pas en Égypte. Mais, on a dit, ne m'enterre pas en Égypte, ça ne veut pas dire, enterre-moi à Hebron. Ça ne veut pas dire, enterre-moi à Maarat HaMakpela. Il va falloir attendre la suite du verset dans lequel Yaakov dit, je veux que tu m'enterres là où sont enterrés mes parents. Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Lama. Il y a une rencontre absolument incroyable qui a eu lieu 4 fois entre le Rabbi de Lubavitch et le Rav Shlomo Goren. 4 fois ils se sont rencontrés. C'est-à-dire, pendant, à 4 reprises, le Rav Goren, quand il était grand rabbin d'Israël, a voyagé pour des raisons officielles en Amérique. Et donc, à chaque fois qu'il est parti là-bas, il a été rendre visite au Rabbi de Lubavitch. Et le Rav Goren raconte dans son livre qu'à chaque fois qu'il est parti là-bas, il lui a redemandé, mais pourquoi vous venez pas en Israël? Et le Rabbi lui a donné les 3 premières fois où il est venu, à chaque fois une autre réponse de pourquoi il vient pas. Et le Rav Goren écrit, à chaque fois, je sentais qu'il ne me disait pas la vérité. La 4e fois, la dernière fois où il vient le voir, il lui redemande, bon alors, Rabbi, pourquoi tu viens pas en Israël? Le Rabbi va lui donner une réponse, et cette fois, le Rav Goren écrit dans son livre, là, j'ai su qu'il disait la vérité. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit tout simplement parce que ma Torah me vient de mon beau-père, des rabbins Chabad d'avant, et mon beau-père est enterré ici à New York. Donc je puise toute ma force et toute ma Torah dans ce que j'ai reçu de mon beau-père, je reste donc à côté de mon beau-père. On ne va pas débattre sur la réponse du rabbi, mais on peut comprendre une chose, c'est que être auprès de ceux qui ont mis en place notre identité, eh bien, nous permet de suivre cette identité. C'est pour ça que Yaakov demande à être enterré d'Afka dans le tombeau de ses pères, pour être véritablement le successeur d'Abraham et de Yitzhak. Et donc Yosef va lui dire, En baya, anochi ese kidvarecha. Vayomer ishav ali, vayishav alo, vayishtachu Israël a rosh amita. Shnia, 2 secondes. Pourquoi il lui a demandé de lui prêter serment? Ça suffit pas quand ton fils il te dit, ok papa, je le fais. Pourquoi est-ce qu'il a besoin en plus de le faire prêter serment? Mes amis, ce n'est pas Yosef qui décide. On a tendance à l'oublier, mais Yosef n'est pas le patron en Égypte. Yosef est soumis au bon vouloir de Pharaon. Et donc Yaakov le sait, ça fait 17 ans qu'il est là. Donc Yaakov le sait et lui dit, jure-le. Comme ça, je sais que ça sera difficile pour Pharaon de te laisser, mais tu feras tout ce qu'il faut parce que tu l'as juré. Et à ce moment-là, Vaishav alo, Vaishtachu Israël al Rosh Amita. Et là, Rachid dit quelque chose de très bizarre. Mazé Vaishtachu Israël, Ta'ala ba'idena sagid lei. C'est de l'araméen, évidemment, qui veut dire le renard à son moment. Et le patron. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, le chef des animaux, c'est le lion. Mais, des fois, quand le lion, il est en vacances, eh ben, le renard, peut-être qu'il a son moment. En d'autres termes, Mazé, Ta'ala, Beidna, Sagidlei, nous dit Rashi encore une fois que Veishtachu Israël al Rosh Amita, le Tzad Shrina. Afachatmo le Tzad Shrina, Mikan Amrush Shrina, le Mala Mirashotav Shekhole, d'avoir un rêve, al Rosh Amita, al Shaita Mitato Shlema, Vla Baresha, Vechule. Il s'est prosterné devant la Shrina. Devant qui? Devant Yosef. Parce que Yosef est à ce moment-là celui par qui passe le dévoilement divin. Mastomet, Vaikra Livno le Yosef. Vous vous rappelez, Vaikra Livno le Yosef, Rashi avait dit là-bas, Mi sheyesh beyado yecholet la asot. Mais en vrai, à qui il devrait demander? À Dieu? Oui, mais sauf que maintenant, à ce moment-là de l'histoire, celui qui dévoile le dévoilement de Dieu, celui qui dévoile la volonté du Créateur, c'est Yosef. En d'autres termes, pour l'instant, il faut passer par Yosef. C'est une grande leçon. C'est-à-dire qu'évidemment que Akadosh Baruch Hu même à l'école à Olam, mais il y a des intermédiaires qui sont nécessaires pour notre attachement à Akadosh Baruch Hu. En l'occurrence ici, Yosef. Une fois que cette histoire d'enterrement est réglée, eh bien, on peut se concentrer sur ce qui est vraiment à l'enjeu dans notre paracha. Va'yachareh devarim ha'ele va'yomer le'Yosef hine avicha chole va'yikach et shenei banav imo et menashe ve'et Ephraim. On vient de bon. Bien plus tard, on a dit à Yosef, ton père est malade. Le chidouche, c'est que c'est la première fois qu'on parle de choli dans le Tanakh. De là, certains commentateurs ont voulu dire que c'est la première fois que quelqu'un a été malade bichlal. Que l'idée même de la maladie n'existait pas avant cela. Et choliot, faut voir, au niveau historique, est-ce que c'est nachon, c'est le nachon, le yodéa. Mais une chose est sûre. C'est la première fois où c'est important dans l'histoire de savoir que Yaakov est malade. Car le malade, c'est quelqu'un qui a le temps de se préparer à quitter ce monde. Yaakov comprend que maintenant, son rôle d'acteur est terminé. Il va falloir qu'il remplisse un dernier rôle avant de quitter l'avant-scène de l'histoire, c'est de donner ses dernières directives. Yaakov, non pas en tant que Yaakov, mais bel et bien en tant qu'Israël. Il va falloir qu'il donne donc ses dernières directives. Alors, allons-y. Yosef arrive avec ses deux enfants, Ephraim ou Menaché, ou du moins Menaché et Ephraim. Va'yaged le Yaakov va'yomer, ine bincha Yosef, va'elecha va'itchazek Israël va'yeshev la'mita. Yosef arrive, Israël revient. Et oui, parce qu'il comprend qu'à ce moment-là, donner la bracha à Ephraim et Menaché, ce n'est pas un rôle pour Yaakov, c'est le rôle pour l'avenir, c'est le rôle pour le futur, c'est donc le rôle d'Israël. Vayomer Yaakov et Yosef. El Shaddai, Anire, Elai, Belouz, Beretz, Kenan, Vevarechoti. Vayomer Elai, Ineni, Mafrecha, Verbiticha, Untaticha, Likalamim, Untati et Eretz, Azeta, Aretz, Azot, Lezaracha, Harecha, Achuzat Olam. Bah oui, évidemment, juste avant de partir, Yaakov nous remet en place l'alliance que Dieu a contractée avec nous, avec Abraham, avec Yitzhak et avec lui. Et au cas où on l'aurait oublié, puisqu'on était depuis 17 ans en Égypte, l'alliance porte sur deux points. Porte sur la descendance, qu'il y ait le peuple juif, et Menaché et Ephraim en sont ici les représentants, mais elle porte aussi sur la terre d'Israël. Faudrait pas que tu oublies, parce que tu es en Égypte et que tu es bien en Égypte, que la finalité, c'est d'hériter de la terre d'Israël. Et donc, nous dit ici, Ve'ata, Shene banecha anoladim lecha be'eretz mitzrayim adboi elecha mitzrayim lihem, Ephraim ou Menaché ki Reuven ve'Shimon yuli. Sache que tes enfants, Ephraim et Menaché, Zécheli. Kereuven et Shimon Yehuli, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront deux tribus parmi les 12 tribus. Emlo Shelchaim Sheli, si tu as après des enfants, c'est les tiens. T'en fais ce que tu veux. Concrètement, si tu as après des enfants, ils seront répartis entre les tribus de Menaché et Ephraim. Mais Menaché et Ephraim, Kereuven et Shimon Yehuli. Vani, c'est-à-dire, Omolad Techa, Asher Olad Tacha, Rehachem, Lechayou. Ce que je viens de vous expliquer. ואני בבואי בפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת דרך לבוא אפרתה. והגברה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de rappeler que Rachel est morte en chemin et qu'il l'a enterrée là-bas? Ben, il vient de demander à Yosef de lui l'enterrer à Hebron. Donc tu comprends évidemment comment ça se passe. Yosef, il dit, mais maman, tu l'as pas enterrée à Hebron, que je sache. Nachon, tu l'as pas dit, Yosef, mais je sais que tu le pensais. Et c'est pour ça que je te dis, si maman, elle est Bekivrat Derer, c'est parce qu'elle a un rôle à jouer là-bas. Quel est ce rôle? Rachel Mevaka Albanea. Rachel va accompagner les Bnei Israël qui partent en exil sur le chemin de Babylone et va les raccompagner lorsque Veshavu Banim Likvulam. Il faut donc qu'elle soit sur le chemin du nord, par là que les Bnei Israël vont partir en exil. Mais attention, c'est où qu'est Rachel? Bonne question! C'est où qu'est Rachel? Est-ce que c'est là où nous, on vous dit que c'est qu'est Rachel? Le Ramban, dans son commentaire de la Torah, il a écrit un commentaire de la Torah, pas dans la paracha de Vayéhi, mais dans la paracha où Rachel meurt, eh bien, va nous dire, d'après sa compréhension des versets, que l'endroit où est enterré Rachel, Zélo Bekever Rachel. C'est beaucoup plus au nord, c'est dans la tribu de Binyamin. C'est qui va derrière la voie Ephrata, au nord, pas dans le Gush Etzion. Enfin, au nord, je m'entends, hein, plus ou moins à côté de Ramallah. Voilà comment le Ramban comprend les versets. Plus tard, dans plein de péripéties, le Ramban va finalement arriver en Israël. Lorsqu'il arrive en Israël, il demande aux Juifs qu'il rencontre de l'amener à la tombe de Rachel. Et il l'amène là où nous on va. Et à ce moment-là, le Ramban écrit dans ses Kitvei Ramban, certes, d'après ma réflexion et ma compréhension du texte, Rachel est enterrée plus au nord. Mais la tradition juive veut que Rachel soit enterrée ici, là où nous on va aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne fait aucun doute que Rachel est enterrée là où nous on va aujourd'hui. Car il n'y a rien de plus fort dans le judaïsme que la tradition. Et la tradition est beaucoup plus forte que l'étude. C'est pourquoi, lorsque vous avez une grande question de halakha, la première personne à qui vous devez demander, avant de demander au rabbin, c'est de demander à vos grands-parents. Qu'est-ce que les grands-parents faisaient dans ce cas-là? 99,99999% des cas, c'est ça la halakha. Pour la simple raison que ce qui se transmet de génération en génération est beaucoup plus fort que n'importe quel livre qui pourrait être écrit par n'importe quel rabbin. Donc, bah une fois qu'on a dit cela, alors c'est parti. Vayar Israël et Bene Yosef, Vayomer, Mi Ele. Pardon? Vayar Israël et Bene Yosef, Vayomer mi ele. Israël a vu les enfants de Yosef et a dit, c'est qui cela? Pardon? Ça fait 17 ans que tu es à côté d'eux. Bichlal, le Midrash, il dit que Ephraim, il étudiait tous les jours chez Yaakov. Quoi, tu les connais pas? Mazem mi ele. Qu'est-ce que ça veut dire? La question n'est pas pour Yaakov, Rabotai. La question est pour Yosef. Yosef, est-ce que tu te rends compte de qui sont tes enfants? Évidemment que je pourrais citer ici le roi Lion, dans cette fameuse scène où Mufasa dit à son fils dans les étoiles, tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. Mais en fait, c'est de cela qu'on parle. Yaakov est en train de demander à Yosef, est-ce que tu sais qui sont tes enfants? Et Yosef répond, Vayomer Yosef el aviv, banayhem, asher natani Elohim baze, vayomar kachemna elai vavarechem. Ça va. Tu te rappelles que ces enfants, c'est Elohim qui te les a donnés. Tu te rappelles que ces enfants sont là pour dévoiler à Kadosh Baruch Hu. tu te rappelles qu'ils font partie d'une grande identité. Alors, Zébesteder, amène-les-moi que je puisse les bénir. Que je puisse, en fait, les faire rentrer dans l'identité d'Israël. Veine Israël, kavdu mizoken, velo yuchal lirot, vayagesh otam elav, vayishak lehem, vayichabbek lehem. Eh oui, Yitzhak, Yaakov, même combat. Il est vieux, il n'arrive plus bien à voir, mais c'est une mise en scène, c'est un subterfuge, parce qu'encore une fois, comme on avait dit avec Yitzhak à l'époque, c'est pas parce que tu vois pas que tu ne sais pas reconnaître qui est Ephraim et qui est Menaché. Ils sont pas jumeaux, Ephraim et Menaché. Donc, Makorepo, eh bien, en fait, on est en train de nous dire que la destinée de ces deux enfants est Meurevet. Il y a chez les deux une dimension équivalente. On va voir de quelle dimension il s'agit. Il nous dit, Vaychabek ota vayom mer Israël el Yosef, reo panecha lo vilalti, veine era oti Elohim gam et zarecha. Vaytse Yosef otam meim birkav, vaychtachu leapav arza. Oui, Yosef et Yaakov comprennent tous les deux qu'il s'agit ici de l'avenir. Menaché et Ephraim, dans un premier temps, plus que Yehuda, représente l'idéal de l'avenir. Quel est cet idéal? Bon, on va voir tout de suite. Vaikar Yosef et Shenhem et Ephraim bimino, mismol Israël, et Menaché mismolo, mimin Israël, vayagesh elav. Ben oui, Yosef place Menaché le Bechor à sa gauche pour qu'il soit à la droite de Yaakov, d'Israël, et Ephraim, il le place à sa droite pour qu'il soit à la gauche de Israël. Eh oui. Et là, vous connaissez le texte. Ishlach Israël et Yemino va yaset al rosh Ephraim veutzeveu atzair veetzemolo al rosh Menaché sikel et yadav ki Menaché abichor. Il a refait le coup. Il a refait le coup de préférer le plus jeune au Bechor. J'ai pas compris. Il a rien compris, Yaakov. Il se rappelle pas de tout ce que ça a amené qu'il préfère Yosef plus que Yehuda ou plus que Reuven. Et il recommence. Sikel et Yadav. La mamakara. Évidemment, on va évarer. ויברך יוסף ויאמר האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו אברהם ויצחק והאלוהים האלוהים הרואה אותי סליחה ועודי עד היום הזה המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק ויגאו לרוב בקרב הארץ. Vous rappelez que dans ce qu'on a appris au Gan, on connaît tous l'histoire de Comme ça. Et on sait tous que Yosef lui a dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et Yaakov lui a dit, t'inquiète. Et après, il lui a fait la bracha. Seulement, c'est pas ce qui s'est passé. Il a fait comme ça. Il a fait la bracha. Et c'est seulement après que Yosef va intervenir. La bracha, il l'a fait tout à fait en conscience. Et Yosef est tout à fait conscient, lui aussi, que son père doit savoir ce qu'il fait. Et c'est quoi cette bracha? Bah, c'est pas shoot. Amalach agoel oti, oti, mikolra. Le malach avec qui il s'est battu et ainsi de suite. Ou yevarer et anéarim et karé bahem shemi. C'est-à-dire qu'eux aussi s'appelleront Israël. Vit goularov et kereva aretz. Et ils rempliront la terre d'Israël. Vous voyez, on est toujours dans le même, dans la même dynamique. Réaliser les deux promesses que Dieu a faites au patriarche. À ce moment-là, ויר יוסף כי ישית אביו את יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, על ראש מנשה. ואומר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים נא ימינך על ראשו. וימיין אביו, ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais, mon fils, les deux seront des grands, mais lui, il sera plus grand que lui. Rashi ne nous aide pas, puisque Rashi nous dit, ah bah oui, c'est quoi cette histoire? De Ménaché va sortir Gidon, de Yehoshua, de Ephraim va sortir Yehoshua. Et Yehoshua est plus grand que Gidon. Bon, on fait des tacharouillottes maintenant. On fait des compétitions de qui est le plus grand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, cette histoire, c'est pas shoot me all. Gidon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Gidon, il a sauvé le peuple juif qui était soumis à Midian. Gidon s'est battu et a ramené l'indépendance à Israël. Fait mode. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua? Pareil. Il s'est battu et nous a fait conquérir la terre d'Israël. Tout d'abord. Ken. Ah, bah, Yehoshua, il a un autre truc. C'est quoi? Moshe qui bel Torah mi Sinai. Umsara le Yehoshua. C'est-à-dire que Yehoshua, en plus d'être celui qui nous donne la terre d'Israël, il nous donne également la Torah. Là où Gidon ne fêtait que Yom HaAtzmaout, Yehoshua, il fête Yom Yerushalayim. Il fête la conquête du pays avec la Torah derrière. Et en cela, eh bien, Yehoshua devient plus grand que Gidon. Et c'est pour ça que Yaakov lui dit, je sais, les deux ils méritent. Les deux ils sont au top. Mais il y en a un qui est Koma Rishona et il y en a un qui est l'idéal. Entre Gidon et Yehoshua, c'est Yehoshua qui prime. Et Rebelot Bracha, il est Vaevarchem Bayom Ahu Lemor, Becha Yevarech Israël Lemor, Yesimcha Elohim Ke Ephraim Vechi Menashe, Vaasem Et Ephraim Lifnei Menashe. De là vient le minhag de tous les papas d'Israël de bénir leurs enfants en disant « Yesimcha Elohim ke Ephraim uchim Menashe ». C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Eh bien, on veut que nos enfants soient ceux qui nous donnent la terre d'Israël et la Torah. Voilà ce à quoi on parle, ce à quoi on pense, ce à quoi on doit penser lorsqu'on bénit nos enfants le vendredi soir en leur disant « Yesimcha Elohim ke Ephraim uchim Menashe ». Je veux que j'ai tous mes espoirs en toi, mon fils, que tu sois celui qui continue à me donner la terre d'Israël et la Torah. Voilà tout le poids que je fais reposer sur les épaules de mon fils lorsque je le bénis. T'inquiète pas, lorsque je bénis mes filles, elles ont un poids qui n'est pas des moindres. Yesimer, Elohim, Kesara, Rivka, Rachel, Veléa. Vous devez donner la vie au peuple juif. C'est pas plus facile. C'est pas plus facile. Donc, nos mamans sont celles qui nous donnent la vie. Et donc, nos filles prennent cet espoir-là pour l'avenir, et nos fils doivent continuer ce que nos pères ont commencé, à savoir nous faire rentrer en terre d'Israël et nous y amener la Torah. Ainsi, eh bien, on peut clore ce débat-là. Et là, on nous dit, « Iné, Yomer Israël el Yosef, Iné anochim met, vaya Elohim imachem, vashiv etrem el eretz avotechem. » Là, c'est clair. « Vanochi met. » Israël dit, finito la comédie pour moi. Zéo, je vous laisse avec Yaakov. Pendant 210 ans, vous serez avec Yaakov. Mais là, maintenant, Israël, terminus. Et la main. Ve'ani natati lecha shchem echad alachecha asher lakarti miyad ha'emori becharbi ou bekashti. Alors là, c'est la meilleure. Ça, c'est le pompon, comme on dit chez nous. Venatati lecha, Yosef. C'est Yaakov qui parle. Je te donne à toi, Shrem echad alachecha, un territoire en plus de tes frères. Shrem, asher lakarti beyad haemori, becharbi ou bekashti. Mais, non. C'est Shimon et Lévi qui ont pris Shrem. Et toi, tu t'y es opposé complètement. C'est quoi cette histoire? Il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que quand on regarde le livre de Yehoshua et la conquête de la terre d'Israël, on n'a pas conquis Shrem. Shrem ne rentre pas dans la liste des rois qui ont été conquis. Et pourtant, on retrouve des Bnei Israël à Shrem. On ne nous dit pas qu'on a dû faire la conquête de Shrem. Bizarre. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait la conquête de Shrem? Bien, pour une raison très simple. Il n'y avait pas besoin. Parce que pendant toute la période où Amisraël était en Égypte, Shrem appartenait toujours au Bnei Israël. En la personne de qui? Eh bien, en la personne tout simplement de Menaché et Ephraim, qui ont conquis la ville. N'oubliez pas que Menaché et Ephraim sont les fils de Yosef. Ils sont les fils de Yosef qui est lui-même le vice-roi d'Égypte. Ils sont des gens extrêmement haut placés en Égypte. Et nous dit Razal qu'ils vont devenir des chefs de guerre. Ils ont été conquérir des territoires. Ces territoires, on va les retrouver beaucoup plus tard lorsque sera donné Shrem à Yaïr ben Menaché, qui avait conquis cette zone quand ils étaient encore en Égypte. En d'autres termes, Yaakov, il dit à Yosef, je sais très bien que maintenant ça appartient à la famille et ça t'appartient à toi. Rien à voir avec ce qu'ont fait Shimon et Lévi. C'est tes enfants qui ont conquis Shrem et donc Shrem t'appartient. Venatati lecha Shrem echad alachecha, she'ani nakarti becha arvi ubikashti. C'est-à-dire de mes descendants. Maintenant qu'on a réglé le problème, enfin le problème, non, pas le problème, on a réglé l'histoire, Yosef, eh bien il ne nous reste plus, en fait, que d'aborder le chapitre même tête. Et là, attention, les amis. Et là, je dis attention. Pourquoi je dis attention? Parce que le chapitre même tête, eh bien, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier chapitre du livre de Bereshit. Ce chapitre même tête va avoir un rôle. Vous le connaissez, ce rôle? Ça va être de faire les brachot à tous les Bnei Israël. Et le dernier chapitre, chapitre Noun, aura pour rôle, eh bien, tout simplement de, comment on dit, de voir la fin de cette identité d'Israël une fois que Yosef s'en va. En d'autres termes, ces deux derniers chapitres sont l'avenir et le présent. L'avenir pour ce qui est des brachot, de ce qui va arriver au Bnei Israël, et la fin de, du livre de Bereshit est dans un présent tellement oppressant parce qu'il a l'impression d'être fermé. C'est pour ça qu'on a mis le chapitre même tête avant le Noun. Qu'il y ait d'abord l'espoir de l'avenir avant le confinement, si je puis dire, du passé. Vous m'avez compris? Il nous reste donc deux cours pour terminer le livre de Bereshit. Et comme je l'ai dit ultérieurement, eh bien, j'aimerais vraiment que le dernier cours de Bereshit se refasse en chair et en os avec vous tous, évidemment, mais particulièrement ceux qui ont été présents depuis le début de notre étude, il y a de cela 2 ans. Donc, on avait dit qu'on ferait des cours qui étaient plus courts, pas des cours de 50 minutes, mais des cours un peu plus courts, histoire qu'on ne termine pas tout en une fois. Et effectivement, je ne sais pas, je pense que la communauté de Emouna, comme toutes les communautés, sont en train de réouvrir petit à petit les synagogues. Et donc, bien, j'imagine que la semaine prochaine, on sera encore par Zoom. Mais je suis couli tikva, couli espoir que la semaine d'après, qui sera après Shavuot, eh bien, on puisse enfin revenir dans les murs de la synagogue pour faire notre dernier cours du livre de Bereshit et terminer ensemble. Quoi qu'il arrive, même si finalement, eh bien, on décide que, enfin, Emouna décide que c'est pas encore le moment de rentrer dans la synagogue, eh bien, le dernier cours de Bereshit, je ne le ferai pas par Zoom. C'est-à-dire que soit dans 2 semaines, on se revoit en live. Ah, je vous rassure, ça sera aussi filmé pour ceux qui ne peuvent pas venir. Mais soit on peut le faire en live avec un kiboud. Eh oui, il faut un petit peu des brachot pour finir un livre de Bereshit. Ça se fait avec des brachot. Donc soit on peut le faire dans 2 semaines, soit eh bien, on le fera quand on pourra le faire. Et en attendant, eh bien, on fera un autre sujet pendant les cours du dimanche soir. Comme ça, les choses sont bien mises en place. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon Yom Yerushalayim à Karev Elenu, Beyom Chamishi Ba'erev Yom Shishi, et Sheyeh Chag Sameach Lekulam.